Cette émission consacrée à la préhistoire de la radio est la première d'une série sur l'histoire de la radiodiffusion. Pourquoi l'histoire ? Eh bien, parce que d'abord, la radio conserve actuellement une importance de premier média dans le monde. On peut considérer qu'il y a environ 2 milliards 240 millions de postes récepteurs de radio, c'est-à-dire le double de la télévision dans le monde. Et même si on est encore loin d'un équipement de toute la population mondiale, c'est de beaucoup le média le plus répandu et le plus écouté. Par ailleurs, au niveau même économique actuellement, une société comme CBS aux États-Unis perçoit davantage de bénéfices de son activité radiophonique que de son activité de télévision. Alors, cette vocation de la radio au niveau mondial s'explique, n'est-ce pas, Jean-Jacques, sur plusieurs causes.
Oui, alors la radio conserve une implantation remarquable parce qu'elle a su conjuguer la vocation la plus large aux vocations les plus locales, qu'elle a su être un média national, voire international, et aussi un média du local dans toutes ses possibilités. La radio qui conjugue la mobilité, la simplicité, la modicité des coûts et la vélocité qui est propre à ce mode d'expression.
Alors, l'histoire de la radio présente des dimensions différentes qui ont une place variable selon les moments de la périodisation. Dans un premier temps, ce que nous verrons au cours des deux premières émissions, c'est l'aspect technique lié à des progrès scientifiques constants, mais qui dureront d'ailleurs même au-delà, mais c'est l'aspect technique qui joue le plus grand rôle. Cet aspect technique qui se traduit aussi dans la production de nouveaux instruments, c'est-à-dire dans tout un aspect économique.
Une économie, effectivement, l'économie de la production de l'instrument, des récepteurs, l'économie de ce qui passe à l'antenne, l'économie du message publicitaire, par exemple, et de la production des messages radiophoniques.
Et bien sûr, un problème qui s'est très rapidement posé, c'est le problème du statut. Ce problème du statut, c'est au fond le problème de la politique de la radio, qui s'est posé avant même le problème de la politique à la radio.
Voilà, c'est doter la radio d'un statut avec des réponses variables d'un pays à l'autre que nous aborderons.
C'est aussi un moyen d'expression orale, moyen d'expression musicale, de nouvelles professions. Mais c'est surtout plus tard qu'on a commencé à s'en occuper, c'est aussi une réception, une audience et tous les problèmes de la connaissance de cette audience qui s'est posée d'ailleurs surtout bien plus tard.
Effectivement, l'invention de la radio, ça passe aussi par l'invention des pratiques radiophoniques et donc l'appropriation de ce nouveau mode d'expression par les auditeurs.
Par conséquent, les grandes étapes de cette histoire de la radio que nous voudrions présenter, nous voudrions les illustrer de documents contemporains, parfois de documents écrits, notamment des journaux, plus encore de documents sonores. Et cette histoire de la radio se présente en quelque sorte à une double vitesse. Il y a l'histoire technique qui se mondialise de plus en plus vite d'ailleurs, et qui est un peu commune à tous les pays. Et puis, il y a la radio comme média qui s'intègre dans une société selon ses caractères propres, liés au système économique, au système culturel, au système politique, et qui, par conséquent, donne une appropriation différente et une périodisation différente des médias selon les pays, selon les aires de civilisation. Dans un premier temps, celui que nous allons voir aujourd'hui, il y a plutôt une communauté de problèmes, puisque ce sont les problèmes de découverte scientifique de ceux que l'on ne considère pas encore comme la radio.
Ce sera tout à fait comme la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots, des mots.
Oui, alors cette question nous amène tout de suite quel âge à la question suivante, quel âge à la radio? Quel âge à la radio? Cette question devrait être doublée immédiatement d'une précision sur le vocabulaire, sur les mots employés, parce que parler de la radio, c'est effectivement parler de différentes choses, et si on peut faire remonter l'invention de la radio à des innovations scientifiques, technologiques assez anciennes, qui ont environ 100 ans, la radiodiffusion telle qu'elle existe aujourd'hui est apparue beaucoup plus tard. Donc, il y a un problème de paternité aussi de l'invention, puisque les revendications quant à l'invention de la radio ont été souvent matinées de patriotisme ou de considérations économiques également. Et ce que l'on doit dire, c'est que la préhistoire de la radio, c'est tout d'abord l'invention de la télégraphie sans fil, la TSF, qui, à terme, va donner naissance à la radiodiffusion.
Par conséquent, un premier temps, c'est le temps des savants. Et ce temps des savants correspond à des travaux qui sont, dans l'immédiat, indépendants de toute préoccupation d'application utilitaire. C'est ainsi qu'en 1864, un Anglais, Maxwell, établit le principe de l'existence d'ondes électromagnétiques émises de façon analogue aux ondes lumineuses. Mais c'est une théorie, c'est simplement un principe qui est affirmé, et il faut attendre 1887 pour qu'un autre savant, allemand cette fois, Heinrich Hertz, expérimente cette théorie de Maxwell en produisant des ondes qu'on appellera précisément en son honneur hertzienne, nom qui restera jusqu'à nos jours. Et puis, en 1890, un autre savant, cette fois un Français, Édouard Branly, met au point un détecteur de ces ondes qui permet un effet manifeste de l'existence des ondes, des oscillations, mais des oscillations à distance, dans un premier temps, de quelques centimètres, sans aucune jonction électrique.
On atteint 20 mètres dans les quelques mois qui suivent, 20 mètres à travers les parois, les murs, les cloisons, et même le brouillard de Londres, nous dit Édouard Branly à cette époque, ce qui fascine effectivement les contemporains de la chose. Et il dépose un mémoire à l'Académie des sciences le 24 novembre 1990 pour présenter sa découverte. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'on a les principes théoriques, la production des ondes hertziennes avec Heinrich Hertz, la réception ou la détection de ces ondes hertziennes avec Édouard Branly. Encore faut-il perfectionner le système, mais aussi lui trouver une application. Ce que ne soupçonnait pas du tout Édouard Branly, qui va se désintéresser dans les années suivantes de la radiodiffusion. Ça ne l'empêche pas, quelques années plus tard, de rendre hommage aux hommes de la radiodiffusion, mais c'est une révélation plus tardive. On écoute pour évocation la voix d'Édouard Branly enregistrée en 1928.
Pour la première fois aujourd'hui, nous voyons grouper tous les artisans de la radio, aussi bien manuels qu'intellectuels, chercheurs, techniciens, compositeurs, auteurs, artistes, journalistes, simples auditeurs. Parmi ces artisans, il est même des héros, ces admirables radiophonistes de l'aviation, de la marine, de la guerre. Non contents d'être unis, les artisans de la radio...
Alors, d'autres savants de différents pays ont contribué à faire progresser peu à peu cette connaissance de l'utilisation des ondes hertziennes. L'anglais Olivier Lodge, par exemple, le russe Popov, l'italien Calzecchi Onesti, le français Turpin, et on pourrait en citer d'autres. Mais peu à peu, face à ces recherches scientifiques dégagées de toute préoccupation utilitaire, on voit le temps des ingénieurs qui s'esquisse, et il y a un ingénieur d'origine italienne, Guglielmo Marconi, qui joue un rôle essentiel, soit en Italie, soit ensuite en Angleterre où il s'établit. C'est lui qui, d'une part, réussit un échange de signaux hertziens à plus longue distance. En mars 1899, une liaison à travers la Manche entre Douvres et Wimereux, et en décembre 1901, la première liaison transatlantique. d'autres applications plus modestes que celles de Marconi, mais tout aussi réelles, ont lieu en France avec le français Ducreté, qui a établi en 1898 une liaison sans fil entre la Tour Eiffel et le Panthéon.
Oui, effectivement. Alors, on passe là au stade d'application en grandeur réelle, on peut dire, des transmissions hertziennes sans fil. Et le mérite principal de Marconi, c'est d'avoir fait sortir la TSF du laboratoire, d'avoir fait connaître cette invention au public et aux décideurs. Marconi avait le sens du spectacle et de la mise en scène, et il a su aussi penser à des applications concrètes de la radiodiffusion. Alors les premières applications, on peut dire, ce sont des applications maritimes, les liaisons notamment entre des phares isolés et la terre ferme en Angleterre, puis des applications où la TSF innove vraiment, c'est-à-dire la liaison entre un point et un autre point en mouvement, là où justement la télégraphie à fil, la télégraphie électrique, était inopérante. Les applications maritimes vont être relayées surtout à travers des catastrophes qui vont révéler en quoi la radio peut servir à sauver et à aider les hommes. Notamment en 1909, se produit une collision au large des États-Unis entre deux bateaux, le Florida et le République. Et le République, qui est à cette époque équipé d'un poste de TSF, peut appeler à l'aide, appeler des secours et sauver 1500 passagers.
Alors, l'épisode le plus connu, c'est la catastrophe du Titanic, le 14 avril 1912, ce grand paquebot qui heurte un iceberg et qui entraîne plusieurs milliers de morts, mais un certain nombre de passagers ont pu être sauvés grâce à l'envoi de messages par TSF qui ont permis à un autre bateau de se dérouter pour porter secours à un minimum de ses passagers. Et ça a beaucoup impressionné les contemporains. Les journaux en ont très largement parlé. Par exemple, l'Humanité du 17 avril 1912 rappelle l'héroïsme de l'opérateur de TSF, TSF télégraphie sans fil, c'est-à-dire les signaux en morse et non pas du tout en voix. Et voici ce qu'écrit le journal. Son héroïsme est d'autant plus digne de notre admiration que grâce à lui, des navires qui faisaient route à des distances de plus de 300 km du Titanic ont pu arriver à temps pour arracher à la mort près d'un millier de naufragés. Et un autre journal, à la même époque, le journal Le Temps, le 21 avril, publie en première page un article, Les sacrifiés du Titanic, où il écrit, je cite, le petit télégraphiste du wireless, c'est le sans fil, n'est-ce pas, en communication avec le monde entier et prisonnier dans son étroit blockhaus, continuait à manipuler ses appareils avec le calme d'un homme habitué à domestiquer la foudre. Alors, cette priorité des liaisons par mer, elle est très significative, puisque au début de l'année 1912, dans les États européens, il y avait un peu plus de 1700 stations de télégraphie sans fil, et sur ces 1700, 1400 étaient installées à bord de navires. Il y a eu aussi une relation avec les colonies, et enfin les inventions scientifiques se cumulant en quelque sorte, on a vu très rapidement une relation s'établir entre la TSF aussi et l'aviation, ce qui devait prendre toute son importance au cours de la Première Guerre mondiale. Mais nous en sommes là essentiellement à la télégraphie sans fil, et un des premiers problèmes qui s'était posé, c'était comment éviter que d'autres personnes que les destinataires reçoivent les messages, ce qui était aux antipodes de ce qu'allait devenir plus tard la radio, la téléphonie sans fil.
Effectivement, et dans la première partie de cette utilisation de la TSF, déjà des enjeux commerciaux, puisque Marconi interdisait à ses opérateurs, dans son entreprise, de répondre aux messages envoyés par un autre système que le sien, ce qui avait provoqué des conflits, même des conflits diplomatiques à cette époque.
Et aussi des procès, parce que Marconi voulait avoir le monopole des messages télégraphiques, ce qui lui valut un procès justement avec Ducretet qui réussit enfin à briser en quelque sorte ce monopole et la justice reconnut une certaine pluralité.
Marconi qui se heurtait lui-même aux actions des compagnies de télégraphes sous-marins, les télégraphes à fil sous-marins, qui voyaient effectivement dans l'arrivée de la TSF une concurrence pour leur activité.
D'ailleurs, les journaux de l'époque qui rendaient compte de ces recherches, souvent extrapolaient en quelque sorte et on en était un peu au niveau de l'imaginaire. C'est ainsi, par exemple, que la Revue Générale des Sciences, en 1899, disait « Lorsque la presse quotidienne annonça que des signaux électriques pouvaient être transmis à quelques dizaines de kilomètres sans l'intermédiaire d'un fil, ce fut dans le grand public une grosse émotion. Et le journal Le Temps, qui lui était un quotidien, envisage même, en 1898, le thème de la vision à distance, ce que donnera beaucoup plus tard la télévision, en disant « L'on nous promet pour 1900, c'était une vue un peu optimiste, on nous promet pour 1900 de nous faire voir ceux de nos amis qui déambuleront à Carcassonne ou à Montélimar aussi distinctement que s'ils étaient assis à nos côtés. »
Oui, alors encore fallait-il passer de la télégraphie sans fil à une autre forme d'expression, la téléphonie sans fil. Ce passage va se faire au début du XXe siècle avec les travaux de Reginald Fessenden notamment, un Canadien installé aux États-Unis, et les travaux de Lee de Forest, qui passe pour l'un des fondateurs de l'électronique moderne avec l'invention de l'audion ou de la triode, qui était un perfectionnement des lampes existant jusqu'alors, une triode qui va permettre l'amplification des messages émis et surtout des messages reçus. Une date fondatrice peut-être à cet égard, c'est la nuit de Noël 1906, date à laquelle Reginald Fessenden émet la première émission de téléphone sans fil, de téléphonie sans fil, à partir de chez lui, quelque chose d'assez artisanal, puisqu'il joue lui-même de la musique accompagnée de sa femme et chante quelques chants ce soir-là, en même temps qu'il fait la lecture de quelques passages du Nouveau Testament dans cette nuit de Noël 1906. Il renouvelle l'expérience quelques jours plus tard, à la veille du 1er janvier. Cette première émission n'a pas été captée par beaucoup de monde. Quelques navires croisant au large des États-Unis étaient équipés des récepteurs adéquats, mais même si elle fut modeste, on peut peut-être dater de cette époque la naissance d'une certaine forme de radiodiffusion.
Mais pour le public, un public d'ailleurs très limité, c'était la TSF, mais TSF, Télégraphie sans fil, qui présentait déjà une certaine utilisation. Il y avait quelques postes récepteurs, postes que les gens devaient savoir utiliser. C'est ainsi, par exemple, que le journal Le Temps, en juillet 1914, à propos du procès, le fameux procès de Madame Caillot, écrit « La dernière mode est d'avoir chez soi un récepteur de télégraphie sans fil. On le porte à son oreille et on entend toutes les dépêches. On entend, c'est une manière de parler. D'abord, il faut connaître les signaux de l'alphabet Morse, et cela, qui n'est pas fort aisé à la lecture, l'est encore moins à l'audition. La plupart des personnes qui ont installé ces appareils, spécialement en vue du procès, n'ont pas eu le temps de faire leur apprentissage du télégraphiste. » Néanmoins, au moment où la guerre de 1914 va éclater, tous les postes privés sont réquisitionnés, Et il y a un certain nombre de postes, quelques dizaines dans les départements, qui servent principalement à connaître l'heure. Et c'est un des effets inédits, en quelque sorte, de la TSF, que d'établir une heure exacte pour l'ensemble de la France. Et même par la suite, l'horloge parlante sera une des activités primordiales de la radio à ses débuts. Mais dans un premier temps, la TSF, Télégraphie sans fil, va surtout se développer comme moyen militaire, comme moyen utilisé par les différentes armées pendant la Première Guerre mondiale.
Oui. Et avant même cette date, il y a effectivement une utilisation qui est parfois facilitée par les militaires, puisque le poste de la Tour Eiffel, qui est sous le contrôle des militaires, sera celui qui diffusera les premiers signaux horaires, les premiers bulletins météo et les premiers cours de la bourse, tout ceci encore en morse avant la Première Guerre mondiale. On recense quelques expériences d'application civile tournée vers le grand public de la radiodiffusion à la veille de la Première Guerre mondiale. Elles sont diverses, elles sont assez tenues pour l'époque. Mais par exemple, à Bruxelles, en même temps que l'on installe un système de télégraphie sans fil destiné à relier la Belgique au Congo belge, des ingénieurs... Raymond Braillard, français, et un professeur d'université, Robert Goldschmidt, professeur à l'université de Bruxelles, distraient une partie de leur temps pour diffuser les premiers radioconcerts qui pourraient peut-être figurer comme un premier service régulier de radiodiffusion avant cette Première Guerre mondiale.
Cette Première Guerre mondiale qui voit aussi ce décret du 6 mars 1917 qui étend le monopole de diffusion de la communication à distance à la radiotélégraphie sans fil, est édicté en vertu d'une loi de mai 1837, dont le rapporteur disait avec prémonition, je cite, « L'esprit humain est inépuisable en ressources nouvelles, et il s'agit de prévoir ici ce qui n'existe pas encore, ce qui n'est ni connu ni imaginé, et qui pourrait être inventé pour éluder l'application de la loi. Ce problème du monopole, avec ses diversités d'applications, sera très largement débattu, et nous le retrouverons notamment dans la deuxième émission consacrée à la naissance de la radio cette fois.